Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, il y a quelques semaines, un jour dans l'histoire recevait Jean-Christian Petit-Fils qui sut, avec méthode, nous dévoiler la véritable identité du fameux masque de fer. Pour mémoire, sa conclusion était la suivante, le masque de fer était un valet, un simple valet de Fouquet qui connaissait les négociations secrètes entre la France et le roi d'Angleterre sur la conversion de ce dernier au catholicisme. En son temps, l'historien allemand Funk Brentano avait écarté la thèse du valet car il ne concevait pas que l'on puisse donner tant d'importance à un personnage de condition si basse. Funk Brentano avait tort, et ceci à double titre, non seulement parce qu'il s'est trompé sur l'identité du masque de fer, mais aussi il s'est trompé sur l'importance des valets au XVIIe siècle. Il est vrai que les historiens se sont peu ou quasiment pas attachés à ces serviteurs des grands personnages du royaume et des rois eux-mêmes. Pourtant, comme le disait Saint-Simon à propos d'un valet de Louis XIV, c'est par lui que passaient tous les ordres et les messages secrets, les audiences ignorées qu'il introduisait chez le roi, les lettres cachées au roi et du roi, bref, tout ce qui était mystère. Très récemment, un jeune historien, Mathieu Davina, s'est intéressé non pas à tous les valets de France et de Navarre, mais aux valets de chambre du roi, au XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Ce travail entre dans le cadre d'une thèse. Il en a tiré récemment un ouvrage paru chez Perrin sous le titre « Les valets de chambre de Louis XIV ». Mathieu Davina, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes donc docteur en histoire, historien, disons-le. Vous êtes aussi responsable des études et de l'enseignement du centre de recherche du château de Versailles. Alors Mathieu Davina, ma première question sera toute simple. Comment arrive-t-on, jeune étudiant, à un tel sujet sur les valets de Louis XIV ?
J'ai commencé tout d'abord en maîtrise à m'intéresser sur les femmes et Louis XIV, sur la transition plus exactement de Madame de Montespan et Madame de Maintenon. Et j'ai vu dans l'ombre, au tapis dans l'ombre, ces petits personnages qui accompagnaient de temps en temps le roi, ou même pas de temps en temps, régulièrement. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. J'ai lu notamment la biographie de Jean-Christian Petit-Fils sur Madame de Montespan, qui pour moi était extraordinaire dans sa façon d'écrire et dans sa façon de présenter les choses. Et je me suis dit, il faut vraiment creuser cet aspect. Je n'étais pas sûr de trouver quelque chose d'important, mais on voyait déjà qu'ils étaient très 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 proches du roi, ne serait-ce par le fait d'amener le roi la nuit par les escaliers dérobés. Et donc j'ai décidé d'étudier ce thème plus avant.
C'est donc par les amours du roi que vous êtes arrivé au valet.
Exactement.
Quel est l'état de l'historiographie sur les valets ? Est-ce que c'est un sujet dont on a déjà parlé ?
Alors on en parle ponctuellement parce qu'il y a certains personnages emblématiques comme Alexandre Bontemps. Donc il y a des articles qui sont parus ici et là dans les années 60 et un peu plus récemment, mais qui sont des articles ponctuels sur des personnages et qui souvent faisaient des erreurs sur les personnages parce que les valets de chambre servaient souvent de père en fils. Donc il y a des erreurs dans les noms des personnes, on confond Alexandre Bontemps avec son fils et ce genre d'erreur. Mais il n'y avait jamais eu d'étude globale sur les valets de chambre et moi j'espère avoir démontré sur leur importance au sein de la maison du roi et de la cour de Versailles.
Alors la première question que se pose, la première démarche de l'historien, c'est d'aller vers les sources. Nous faisons un point d'honneur à évoquer ces sources dans l'émission Un jour dans l'histoire. Quelles sont ces sources auxquelles vous avez pu avoir accès ?
Je me suis d'abord dirigé vers, j'avais lu un livre qui était sorti récemment d'une thèse sur les commensaux du roi en général de Sophie de Laverny, qui était une approche complète sur la maison du roi et qui parlait évidemment des valets de chambre, mais au même titre que les valets de garde-robe, que les grands commensaux, que les petits officiers. Et elle donnait déjà un certain nombre d'informations, au moins juridiques. Donc j'ai fait, comme chaque historien, j'ai fait ce qu'on appelle, du moins ce que mon directeur de thèse appelait, mais ce que je pense que tous les professeurs d'université appellent, l'effet boule de neige. C'est-à-dire qu'on commence par une bibliographie qui nous en amène d'autres. Donc j'ai d'abord été voir les imprimés du XVIIe siècle sur les imprimés des traités de droit sur la maison du roi qui existent. Et puis après, il faut mettre vraiment la main à la pâte et aller aux archives nationales, consulter tous les textes de la secrétariat de la maison du roi dans la série O1. Et puis après, se plonger dans la motte de foin que sont les minutes du minutier central des notaires. Donc là, j'avais calculé à peu près approximativement, pour l'époque, ça doit être à peu près 20 millions d'actes, c'est-à-dire 122 études notariales réparties sur Paris au XVIIe siècle. Et lorsqu'on n'a aucun point de départ, ne serait-ce qu'une date, c'est vraiment creusé comme ça. Mais il y a des moyens de sondage, de se dire, de fouiller plus précisément les notaires qui sont autour du Louvre ou des choses comme ça. Mais sinon, après, c'est des manuscrits de la Bibliothèque nationale, les manuscrits de la Bibliothèque municipale de Versailles, de même que les archives départementales des Yvelines.
Il existe des recensements, parce que dans vos annexes qui sont assez importantes, ce qui est rare pour un éditeur, on a raison de le souligner, vous donnez la liste des valets de chambre ordinaires. Alors, nous allons revenir tout à l'heure sur ce que sont ces valets de chambre ordinaires, mais vous avez une liste impressionnante d'hommes, et on peut trouver... un recensement de ces personnages ?
Non, ça c'est vraiment moi qui l'ai fait. Du moins, il y a des recensements, mais par année. Donc j'ai consulté toutes les listes des commensaux, année par année, à la fois ce qu'on appelle à la Chambre des Comptes, dans la série de la Maison du Roi. Et puis j'ai systématiquement sondé toutes ces listes, donc qui sont au nombre, du moins un certain nombre, donc, des manuscrits de la Bibliothèque nationale et également aux archives. J'en ai fait moi-même un tableau que j'espère exhaustif, mais on n'en est jamais sûr. Et puis après, j'ai essayé de sonder, parce que là, il y existe des index dans la série de la Maison du Roi qui a été assez bien dépouillée, des index de noms. On peut chercher, espérer, retrouver des informations plus précises sur des personnages lorsqu'on a un nom. Mais comme l'orthographe n'étant pas fixée à l'époque, il faut chercher sous plusieurs orthographes. Il n'y a pas forcément les prénoms. Des fois, on a les noms des seigneuries et pas forcément les patronymes. Et donc, c'est un tableau qui a demandé du travail, mais qu'il est ce qu'il est. J'espère qu'il est exhaustif, en tout cas.
Alors, il y a aussi les mémoires, bien évidemment. Vous êtes très marqué, vous citez d'ailleurs énormément Saint-Simon.
Je le cite parce qu'il en parle, mais il ne faut quand même pas le prendre non plus au pied de la lettre. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir quand il dit du bien de certains valets de chambre. Parce qu'au contraire, il est plutôt anti-valets de chambre, du moins anti-petits officiers. Il n'a jamais compris comment des gens... de cette origine sociale, c'est-à-dire des gens de la bonne bourgeoisie ou des gens de métier qui se sont élevés et pu atteindre une place aussi enviée auprès du roi. Donc je cite Saint-Simon parce qu'il reste juste dans ses descriptions de la vie quotidienne du roi. Et c'est toujours intéressant de prendre un portrait qu'il dresse d'un valet de chambre, parce qu'une fois n'est pas coutume, quand il en dit du bien, on peut se dire que le personnage était vraiment bien.
Est-ce qu'il aurait souhaité, au fond, Saint-Simon, une société sclérosée ?
Je pense que oui. Du moins, c'est même pas forcément une société sclérosée. Il prenait le retour à une société où le roi était complètement conseillé par ses grands. Donc oui, sclérosé dans ce sens-là, c'est-à-dire pas forcément une monarchie absolue telle que l'avait Louis XIV, puisqu'il était contre cette monarchie absolue, puisqu'il n'a jamais trouvé sa place, du moins au point de vue du pouvoir sous le règne de Louis XIV. Il aurait voulu effectivement un roi entouré de ses grands seigneurs, de ses grands féaux qui le conseillent et qui l'orientent dans ses décisions.
Alors Yves-Marie Berset, votre préfacier, dit qu'il y a deux types de livres sur le règne de Louis XIV. Les livres écrits par les chercheurs avec plus ou moins de succès, mais qui au fond souvent retombent dans les mêmes lieux communs. Et il y a d'autres auteurs qui sont alors là pour le coup beaucoup moins sérieux, qui s'emploient souvent à la caricature du grand siècle. Alors votre livre naturellement ne fait pas partie de cela, ni de l'une catégorie ni de l'autre. Et Yves-Marie Berset a un mot formidable, il dit « L'histoire des valets de chambre ne se confond pas avec l'histoire vue par les valets de chambre. Votre livre n'a rien du livre de sarcasme, et j'allais dire, vous mettez le valet de chambre au centre de la vie du roi. »
Oui, j'ai voulu, du moins je remercie Yves-Marie Berset déjà d'avoir préfacé ce livre, c'était mon directeur de thèse et... je le remercie d'avoir fait cette préface. Oui, le tout, c'était non pas forcément de voir l'histoire à travers les valets de chambre, mais une histoire de l'intérieur où le valet de chambre est un personnage inhérent à la cour, parce qu'en faisant partie depuis le début. C'est vrai que la cour, on l'oublie un peu, mais la véritable cour, ce sont tout, au départ le roi et ses domestiques. Et les valets de chambre sont depuis le début, moi j'ai retrouvé des papiers non pas du XIIIe siècle, mais évoquant des faits du XIIIe siècle, où ils sont déjà présents, très présents. Et l'idée, c'est de voir la cour par des gens qui y travaillent à l'intérieur, et qui en donne une vision nouvelle et non pas à travers les mémorialistes qu'on a l'habitude de lire, qui sont effectivement là, mais qui participent, mais pas à la vie, du moins vraiment, de cour, du moins à son mécanisme.
À vous lire, en fait, Louis XIV apparaît comme beaucoup plus humain.
Oui, parce qu'on a des citations qui sont
parce
assez significatives.
On a la représentation du roi absolu, oui. Entouré de ses courtisans. Vous citiez tout à l'heure Saint-Simon, qui reprochait à Louis XIV de ne pas faire confiance au prince. Mmh. Au fond, à côté du valet, eh bien, on est près du roi.
Oui, c'est ça. En fait, on est dans l'intimité du roi. Donc forcément, le roi apparaît plus humain et il a des paroles extraordinaires qui sont rapportées par l'abbé de Choisy, notamment par Racine, lorsqu'il y a un valet de chambre qui lui fait tomber de la cire sur le pied ou des choses comme ça, et qu'il a des mots très très aimables en disant « Au moins, apportez-moi de l'eau de la reine de Hongrie pour pouvoir soigner la brûlure, qui ne devait pas être une brûlure très importante. » Mais on est effectivement dans l'intimité, donc forcément, le roi est plus humain.
Je reçois Mathieu Davina, historien et auteur du livre « Les valets de chambre de Louis XIV » paru aux éditions Perrin. Nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, Mathieu Davina, dans un instant.
Canal Académie. Écoutez Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Nous reprenons le cours de notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Mathieu Davina, auteur du livre « Les valets de chambre de Louis XIV » paru très récemment aux éditions Perrin. Alors, en face de ce roi, il y a un ou plusieurs valets de chambre et on est frappé par ces personnages qui devaient être aussi discrets que prompts à intervenir, aussi effacés que prêts à écouter une confidence royale, tout en sachant d'ailleurs que l'influence du valet avait ses limites, limites qu'il devait connaître. C'était un art d'être valet, on a envie de dire.
Oui, en fait, ils sont recrutés au départ soit par le fait qu'ils aient un talent particulier. Je ne sais pas si on va parler des origines plus tard, mais ils ont un talent particulier, soit comme chirurgien, soit comme musicien. Et comme ils se sont fait repérer dans ce talent, on les gratifie par un accès à la chambre et ils ont toujours su garder leur place. C'est peut-être cette origine justement qui modeste, où ils savent qu'ils doivent tout au roi et qu'ils sont vraiment près du pouvoir et qu'on leur a fait une confiance énorme en leur confiant cette charge. Et ils se sont toujours tenus à leur place, sauf peut-être il y a Pierre de la Porte qui, à un moment donné, du moins la régence d'Anne d'Autriche, s'est un petit peu égarée parce qu'il était contre Mazarin et qu'il avait les pleins pouvoirs, donc ça n'a pas énormément plu. Mais sinon, on peut dire qu'ils se sont toujours tenus à leur place et ont su garder, d'oser les rapports qu'ils pouvaient avoir avec les courtisans qui venaient les solliciter et ce qu'ils pouvaient révéler du roi, c'est-à-dire rien, normalement, même s'il y a quelques petites anecdotes qui transpirent de ci, de là, mais qui, en général, transpirent une fois que Louis XIV est mort. Ce sont des publications postérieures à la mort de Louis XIV.
Donc, intelligence, prudence, fidélité, ce seraient les trois mots d'ordre du...
Oui, a priori, oui. En tout cas, c'est apparu comme ça.
Alors, Venons-en à la définition de ce qu'est le valet de chambre. Et d'abord, la chambre. Qu'est-ce que la chambre? Est-ce que le mot chambre a le même sens que nous lui donnons aujourd'hui?
Alors la chambre, avec un grand C, on va dire, est un département de la maison du roi qui dépend du grand chambellan, qui était le grand officier de la couronne. C'est tout un ensemble de personnel. C'est un véritable département, donc avec le grand chambellan à sa tête. Ensuite, on a les premiers gentilshommes de la chambre qui sont 4 et qui servent par année alternativement. Ensuite, on a les 4 premiers valets de chambre et les 32 valets de chambre ordinaires et tout un tas d'officiers, huissiers de la chambre, de l'antichambre, tapissiers, etc. Et qui régentent la vie quotidienne du roi dans son intérieur.
Donc la chambre n'est pas la pièce, n'est pas en soi. La
chambre
pièce.
N'est pas la pièce en soi, même si elle tire évidemment son nom de la chambre du roi, qui est l'endroit par définition le plus sacré du palais, puisque c'est l'endroit où dort le roi. Et à Versailles, si elle n'était pas centrale au départ, elle l'est devenue en 1701 après remaniement des appartements du palais. Et elle occupe une place centrale au sein du château.
Alors, vous le disiez, enfin, vous veniez de le dire, il y a 3 catégories de valets.
Oui.
Qu'est-ce qui les distingue?
Alors, il y a les premiers valets de chambre qui sont vraiment... En fait, on connut une ascension sous Louis XIV. Parce qu'auparavant, ceux qui étaient vraiment les maîtres de la chambre, c'était le grand chambellan, qui avait vraiment une autorité à la fois nominale et effective sur la chambre. Ensuite, il y a eu un glissement du pouvoir sur les premiers gentilshommes de la chambre, qui étaient 4, qui remplaçaient le grand chambellan en son absence en tout point, et qui déjà ne prêtaient plus le serment directement entre les mains du roi, ce qui prouve que le grand chambellan avait déjà perdu un peu de son influence. Donc c'était un très très grand seigneur, c'était la famille de Bouillon au XVIIe siècle. Et donc ces premiers gentilshommes de la chambre, tous des grands noms de France, des ducs, tous de rang ducal. Et on a ensuite en dessous, dépendant d'eux, logiquement, du moins et juridiquement, les premiers valets de chambre, au nombre de 4 servant par quartier, qui se relaient dans la chambre du roi, parce qu'ils dormaient dans la chambre du roi. On dit au pied du lit, mais en fait c'est le long du lit, dans un lit de veille, pour prévenir les envies et les désirs du roi la nuit, et qui, eux, ont vraiment connu une ascension au XVIIe siècle, au détriment des premiers gentilshommes de la chambre. Le fait d'être si présent, parce que la transition s'est faite sous Louis XIII, Louis XIV, jusque sous vers 1640. C'est pas très, très clair. C'était encore le premier gentilhomme de la chambre en année qui couchait dans la chambre. Et après, il a été défini que ça serait le premier valet de chambre. Et pour les secondés, il existe 32 valets de chambre que j'ai appelés ordinaires, mais par commodité, parce que c'était pour les différencier des premiers valets de chambre, qui servaient également par quartier, donc c'est-à-dire 8 valet de chambre par trimestre en permanence, un premier valet de chambre en permanence aussi par trimestre, qui, eux, répondaient aux ordres du premier valet de chambre qui avait vraiment la haute main sur la chambre en l'absence du premier gentilhomme de la chambre et qui réglait vraiment le quotidien, plus que le cérémonial et les choses comme ça. Ils avaient un travail, un vrai travail qui n'était pas honorifique, ce qui du coup les rapprochait du souverain.
Est-ce que cette mutation dont vous parlez participe de l'absolutisme, de l'évolution vers un régime plus absolu où les princes en fait
sont mis en retrait
et au fond ne restent autour du roi que des serviteurs qui ont leur importance comme nous allons le voir?
Je pense que ça participe, à l'évolution de la monarchie, dans le sens où Louis XIV s'est fait un point d'honneur, ou pas un point d'honneur, en tout cas à s'entourer de gens de métier, aussi bien pour ses ministres, ce sont des gens qui viennent de la bourgeoisie et du parlement, ce sont des parlementaires, des familles de parlementaires, des gens qui ont une connaissance spécifique du métier, et qui donc ne sont pas nécessairement nobles, parce qu'il y a des premiers valets de chambre qui sont nobles, du moins des qui sont seigneurs, mais pas grands seigneurs, je pense au comte de Chamarandes, mais ce sont des personnages qui doivent tout au roi. Et ça participe effectivement à l'évolution de la monarchie, parce que ces gens-là sont dévoués au roi parce qu'ils lui doivent tout, et ils n'ont pas une clientèle comme les ducs qui ont besoin, par l'évolution de la monarchie, de venir à Versailles et d'occuper les premières places dans le palais. Mais Louis XIV a su ennoblir ceux qui le servaient. Mais du coup, ça reste des gens, même s'ils sont anoblis d'une façon, parce que toute la question d'anoblissement des valets de chambre est assez compliquée, ce sont des gens qui lui doivent tout et qui ne sont rien socialement à l'époque.
Alors, arrêtons-nous quelques instants sur ces premiers valets. Enfin, un premier valet par rapport à un valet, un simple valet honoraire. Qu'a-t-il de plus? Que fait-il de plus?
Alors, il a des fonctions déjà plus agréables. Il est huissier du conseil, c'est-à-dire qu'il se... Il existe un corps d'huissier au sein de la maison du roi, mais c'est lui qui tient la porte lorsque le roi fait son conseil le matin. Il a surtout l'avantage d'être en permanence auprès du roi. Mmh. Et c'est lui qui le réveille le matin. Et les valets de chambre ordinaires sont là pour apporter, par exemple, la robe de chambre que le premier valet de chambre va passer au roi. Mmh. C'est-à-dire que le premier valet de chambre touche le roi, alors que les autres touchent le premier valet de chambre qui va toucher le roi pour... Et puis, il y a surtout après une différence, donc fatalement financière. Les premiers valets de chambre accumulent des fortunes considérables par rapport aux valets de chambre ordinaires.
Vous dites qu'ils possèdent aussi les clés du coffre.
Oui.
Alors, de quel coffre s'agit-il ?
Alors, il y a les coffres des papiers du roi, en fait, où il y a tous ces papiers... C'est une conception ancienne, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien y avoir de très très important dans ces coffres. Il y a les bourserons, il y a du moins la montre du roi, il y a ses vêtements ou des choses comme ça. Mais lorsqu'on parlait des clés des coffres, au départ, c'était les papiers, mais il ne doit plus du tout y avoir les papiers officiels du roi qui dans sa chambre. Mais c'est juste la symbolique qui est très très forte d'avoir la clé des coffres, parce que on le signale systématiquement. En fait, les premiers valets de chambre ont eu cette dénomination rectifiée par un brevet en 1675. Ils étaient déjà dits premiers valets de chambre sous Louis XIII, mais ça avait été un petit peu oublié. En général, on les appelait valets de chambre couchant à la chambre du roi ayant les clés des coffres. Et les valets ordinaires étaient simplement dits valets de chambre, du moins. Les premiers valets de chambre, c'est pas un abus de langage, mais valets de chambre ordinaires pour les 32... Les premiers valets de chambre étaient aussi premiers valets de chambre ordinaires. Ordinaires signifiant qu'on sert régulièrement. Parce qu'il y a des gens qui servent que alternativement tous les 2 ans ou des choses.
Alors on a du mal, j'ouvre un peu une parenthèse, mais on a du mal à se représenter ce genre de choses. C'est un monde où, qu'on ne peut pas comprendre si on n'accepte pas cette symbolique. Il y a des symboles partout au fond.
Ah oui, c'est rempli de symboles parce que... On est complètement étonné de se dire, mais comment ça se fait que ces gens-là trouvaient pour honneur de tenir le bougeoir? Il y a la cérémonie du bougeoir lors du lever du roi, ou plein de petites choses comme ça. On se dit, mais comment est-ce qu'on peut être admiratif de voir le roi sur sa chaise percée le matin et venir l'admirer se lever? Et c'est vrai que Louis XIV, et même auparavant, parce que c'est plutôt Henri III qui a édicté premier un grand règlement de la maison du roi en 1574, puis repris en 1585, mais qui avait été abandonné à sa mort par Henri IV, qui était beaucoup plus souple, on va dire, et même par Louis XIII, qui vivait beaucoup plus simplement. Louis XIV a fait ressortir et a imposé comme une règle pour glorifier, entre guillemets, vraiment le roi. Et ça marche. Les courtisans sont admiratifs d'être là au lever, d'être là à tous les moments de sa vie, de pouvoir le voir, de pouvoir participer à ces événements quotidiens qui, pour nous, nous semblent complètement inintéressants au possible.
Alors, il y a d'autres valets. Il y a les valets ordinaires, les valets honoraires. C'est ce que nous allons voir, si vous le voulez bien, Mathieu Davignat, après une seconde pause.
Canal Académie.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques. Les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année, Radio Canal Académie leur donne la parole. Connectez-vous et écoutez.
Christophe Dicques.
Un jour dans l'histoire reçoit Mathieu Davignat, auteur du livre Les valets de chambre de Louis XIV, paru dans la collection Pour l'histoire des éditions Perrin. Alors, Mathieu Davignat, nous venons d'évoquer les personnages qui étaient les premiers valets du roi. Il y a d'autres valets, il y a les valets ordinaires et les valets honoraires. Les valets ordinaires, vous le disiez tout à l'heure, il y en a 8 qui sont sous la responsabilité du premier valet de chambre. Et bon, ils avaient divers rôles, notamment celui de garder la chambre du roi la journée. Alors à l'époque, il n'y avait pas de journée du patrimoine, mais on pouvait sans aucun problème, quand le roi n'était pas présent, entrer dans la chambre du roi.
Oui, c'est-à-dire que Versailles était une résidence publique. En 1682, lorsque le roi s'y installe de façon officielle, au mois de mai 1682, Versailles passe de son statut de résidence privée à résidence d'État. Donc par la même occasion, tout sujet, pourvu qu'il soit bien habillé, qu'il porte une épée, chapeau, convenablement, donc le concierge a prévu l'hypothèse, il y a une petite baraque avec location de chapeau et épée à l'entrée du palais, peut venir visiter le château, du moins essentiellement les grands appartements. c'est-à-dire aujourd'hui tout ce qui est du côté jardin, toute l'enfilade de grands salons et également la chambre du roi, mais à condition évidemment que le roi ne se trouve pas dans ses pièces. Et on peut aller effectivement voir là où le roi dort. Et il y a toujours des valets de chambre, deux valets de chambre de part et d'autre du lit qui surveillent et des huissiers qui veillent à ce que disent les sources, les états de la France, notamment qu'on ne s'assied pas sur les sièges, ce qui paraît complètement incongru, mais apparemment on ne devait pas être complètement dépourvu de sens si on prend le soin de le préciser. Mais donc les gens défilaient comme ça dans...
Ils s'inclinaient devant
il
le
s'inclinait
lit.
Devant le lit, comme si le roi était présent, parce que c'est, comme je vous disais tout à l'heure, la chambre était vraiment l'endroit le plus sacré dans le château.
Ouais, nous y reviendrons tout à l'heure, le roi vraiment était considéré, ce qu'on appelle le double corps, il était à la fois homme, non pas Dieu, d'un autre côté, mais en tous les cas représentant de Dieu. Il y avait une forte symbolique et c'est pour cette raison qu'il y avait cette inclinaison. Les valets ordinaires ont un autre rôle qui est un rôle assez anecdotique, mais qu'on voit parfois dans les films à propos d'autres empereurs ou d'autres rois. C'est le rôle de goûteur.
Oui, ce qu'on appelait faire l'essai. Parce que du moins, ils avaient le rôle de goûteur, mais pas pour tous les repas, juste pour la collation qu'on apportait la nuit au roi. Mais alors, il y avait toute une cérémonie. C'était déjà pré-goûté à la bouche du roi, l'endroit où on préparait la collation de nuit, qui était quelques pains, une carafe d'eau, des choses comme ça. Et c'était confié ensuite à un officier de la bouche, qui à son tour le confiait à un valet de chambre. Et à partir du moment où c'était dans la main du dernier, comme c'était le valet de chambre vraiment qui confiait au roi, il en avait l'entière responsabilité. Donc il devait, puisqu'a priori tout le monde avait fait son travail auparavant, et ça avait été déjà préalablement goûté, l'empoisonnement ne pouvait plus passer par lui, puisque c'était le dernier à apporter la collation au roi. Et du coup, on appelait faire l'essai, donc on frottait avec du pain la nourriture, et puis il devait le manger devant le roi pour voir si ce n'était pas empoisonné. Donc voilà, c'était ce rôle de goûteur.
Alors, il y a aussi, et enfin, les fameux valets de chambre honoraires. Alors, il y a un valet de chambre honoraire qui est très connu, c'est Molière, c'est bien cela ?
Oui, qui était tapissier, qui avait hérité sa charge de son père, mais qui avait une véritable charge. C'est pas, je les ai appelés honoraires pour les différencier des autres, dans le sens où, non pas qu'ils avaient une charge qui n'existait pas et qui ne correspondait à rien, mais qui n'était pas une charge de valet de chambre. C'est-à-dire que c'était des gens qui avaient le titre de valet de chambre, par extension, mais qui avait un métier. C'était comme les tapissiers comme Molière, comme les horlogers, les cordonniers, qui par extension étaient dits barbier, valet de chambre, tapissier, valet de chambre. Et Molière avait hérité sa charge de son père, qui je crois l'avait acheté en 1637 ou quelque chose comme ça, qui faisait en fait les meubles du roi, les chaises, les lits. Et Molière l'avait un petit peu laissé en déshérence, ou du moins laissé son père s'en occuper. Et puis, parce qu'après, à la mort de son père, c'était passé, ou du moins je crois que son frère, je ne me rappelle plus exactement la chaîne de Molière, mais son frère est mort à un moment donné et Molière, qui était déjà connu relativement au moins auprès de monsieur dans sa troupe de théâtre, s'est empressé de revenir récupérer la charge et de certainement pas la laisser et il est resté valet de chambre tant qu'il a vécu, ou je ne sais plus s'il l'a redonné à son frère ou un de ses frères, mais c'était vraiment très très important pour lui. Parce que ça lui donnait un accès au roi. Et je me pose la question, je ne sais pas si je n'y ai pas répondu, mais on peut s'interroger sur le devenir de la carrière de Molière, même si je pense qu'effectivement, ce qu'il a écrit était formidable. Mais il avait un accès qui lui permettait de présenter directement ses œuvres au roi. Donc, de même, Philippe Quinault, le librettiste de Lully, était valet de chambre ordinaire du roi depuis 1661. Alors, il avait déjà écrit des pièces de musique, mais il n'était pas encore, et c'était pas encore les grandes tragédies de Lully, du moins la collaboration avec Lully. Et il a acheté en 1660, en épousant une riche veuve qui lui a permis d'acheter une charge de valet de chambre ordinaire. On peut se poser la question, du moins ils étaient vraiment très attachés, ils effectuaient vraiment leur charge auprès du roi.
Alors je vais revenir un peu en arrière par rapport à ce que vous dites, c'est qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé à propos des premiers valets, c'est que là vous présentez un cas où au fond Molière était près du roi, donc il pouvait accéder facilement et lui présenter ses œuvres, mais les premiers valets ont aussi un rôle, j'allais dire, un peu entremetteur, où ils peuvent accélérer une procédure qui met du temps en donnant les fameux placés.
Oui,
pour nos auditeurs, rappelez-nous ce que sont les placés.
Ce sont des requêtes écrites qu'on pouvait présenter. Louis XIV, du moins, lorsqu'il a pris vraiment sa prise de pouvoir personnel en 1661, Il y a des mémoires qui ont été rédigées par ces historiographes, mais ont fortement inspiré de la pensée de Louis XIV, où il écrit « Je donnais la liberté à chacun de s'exprimer à moi à tout moment, par placet », donc en rappelant que c'était une tradition antique des rois de France par rapport aux autres monarchies européennes. Et il y avait des jours pour les distribuer, donc il est vraiment codifié, mais on pouvait également passer par le premier valet de chambre. On s'adressait au premier valet de chambre de quartier, ou pas forcément, hein, premier valet de chambre qu'on connaissait plus particulièrement. Et le valet de chambre accélérait les démarches suivant. Il répondait favorablement. Alors Alexandre Bontemps, que j'ai particulièrement étudié, toutes les sources sont unanimes et disent qu'il s'empressait, il faisait tout pour vraiment être le plus serviable possible. Mais il y a certaines personnes qui étaient sourdes au placet qu'on leur présentait. Et notamment, Quentin de la Vienne est sollicité par Bussy-Rabutin à plusieurs reprises. Bussy-Rabutin qui avait été embastillé en 1665, après qui avait été mis en exil à la suite de son histoire amoureuse des Gaules et puis de la France galante qu'on lui a attribuée mais qu'il n'avait pas écrit. Et puis on voit très bien que François Quentin de la Vienne ne se presse pas énormément. Il donne effectivement les placés au roi, mais il ne suit pas de près l'affaire. Alors que Nière, à un moment donné, avec le marquis de Villars, le futur maréchal-duc de Villars, parle favorablement au roi de Villars, et d'un seul coup, Villars se retrouve, du moins, à un titre immédiatement promu dans l'armée, à un titre beaucoup plus gratifiant que celui qu'il occupait auparavant.
Il ne fallait pas en abuser.
Il fallait pas en abuser, non.
Il fallait trouver un juste milieu, au fond. Oui. Ouais. Et c'est là où toute la discrétion et l'entregent d'un valet pouvaient être mis en exergue.
Oui, oui. On voit Bontemps qui, de temps en temps, on a vraiment un exemple précis où il se mouille, parce que, du moins, je sais plus si c'est vraiment Bontemps, mais il me semble bien, où il y a le duc de Lorraine, où un des monsieur de Lorraine vient de perdre son frère, et il présente un placet à Bontemps qu'il s'empresse de présenter au roi. En fait, c'était pour une demande d'abbaye. Et voyant que le roi reste muet, Bontemps lui demande « Que dois-je répondre à monsieur Lorraine ?» Ce qui n'est pas très osé, mais qui fait quand même un suivi de l'affaire. Et du coup, le roi lui répond « Dites à monsieur Lorraine que je donne l'abbaye pour son fils. » Ou...
ouais. Ouais. Alors, il y a un événement très important et on ne peut pas s'empêcher de ne pas en parler, c'est le fameux lever du roi. Comment se passait le lever du roi ?
Alors, il était très très ritualisé, c'est-à-dire que le roi se levait en général entre 8h et 8h30, donc il couchait dans sa chambre, jusque la mort de la reine. Primi Visconti nous dit, qui était un courtisan italien qui était de passage à la cour, entre 1673 et 81, nous dit que du vivant de la reine, qui est morte en 1683, mais on peut supposer donc jusqu'en 1683, même s'il est resté que jusqu'en 1680, que le roi n'a jamais découché de chez la reine. Il y arrivait peut-être à 3h ou 4h du matin après être allé chez ses maîtresses, mais il allait ensuite chez la reine et... À ce moment-là, le valet de chambre, le premier valet de chambre de quartier, allait le rechercher pour le mettre dans sa chambre officielle, pour le lever devant tous les courtisans. Et alors à 8h30, la pendule sonnait, le premier valet de chambre écartait les lourds rideaux du lit, qui étaient fermés évidemment pour les questions de chaleur, et lui disait « Sire, voilà l'heure », même s'il était réveillé, c'était le rituel systématiquement. Et alors se mettait en route une mécanique. Il y avait deux garçons de la chambre qui étaient également sous les ordres des premiers valets de chambre, qui dormaient de part et d'autre, du moins les deux pièces de part et d'autre de la chambre. Un des garçons de la chambre allait prévenir le premier gentilhomme de la chambre, mais qui patientait déjà dans les antichambres, puisque c'était tout le temps la même heure. On commençait à ouvrir les volets, l'autre commençait à ouvrir les volets. Il y a les huissiers qui arrivaient, qui prenaient leur place à l'entrée de la porte. Et puis il y avait... ensuite, les différents personnages qui se présentaient. Donc, les premiers à se présenter jusqu'en 1687 ou 8, je ne sais plus exactement. Il y avait Perrette Ancelin, qui était la nourrice du roi, donc qui est décédée en 1688, qui était la première à pouvoir rentrer dans la chambre du roi pour venir embrasser le roi comme si c'était encore son enfant. Donc, c'est très étonnant de voir cette pratique, de se dire que Louis XIV, jusqu'en 1688, donc il a 50 ans, sa nourrice qui vient l'embrasser tous les matins. Et ensuite, il y avait le premier médecin et le premier chirurgien qui venaient pour prendre son pouls, voir comment était sa santé. Et après, se mettait en place tout un système d'entrée avec les personnages les plus officiels, le grand chambellan, donc le premier à rentrer, le grand chambellan, premier gentilhomme de la chambre en année et les autres également. Ensuite, les secondes entrées avec les brevets d'affaires dont bénéficiait notamment le marquis d'Anjou, c'est-à-dire le brevet d'affaires, c'est lorsque le roi était non plus dans son lit, puisque dans la première entrée, le roi était encore dans son lit, mais le brevet d'affaires, le roi était assis sur sa chaise d'affaires, c'est-à-dire sur les toilettes. Et ensuite, il y avait la troisième entrée où tout le monde, indistinctement, quand même la cour qui vit au palais. Et tout ça était très réglé parce qu'on refermait la porte systématiquement, le battant, entre chaque entrée, de personnage. Il y avait l'huissier qui signalait le nom du personnage qui se présentait. Donc l'huissier le signalait au premier gentilhomme de la chambre, qui le signalait au roi. Mais tout ça était une mécanique parce qu'on savait très bien que tel ou tel marquis ou tel duc devait rentrer. Mais c'était quand même fait de cette manière très ritualisée. Et après, il y avait une presse énorme. On pouvait atteindre les 200 personnes qui se pressaient autour de la chambre du roi. Donc certainement autour du balustre qui séparait en fait le roi du commun des mortels, qui était une petite balustrade qui sont en face de son lit. Et le premier valet de chambre était évidemment à l'intérieur du balustre. De même que les gens qui l'habillaient au fur et à mesure, les valets de garde-robe, les valets de chambre. Et puis après, tout le monde se pressait autour et certainement de part et d'autre de la chambre.
Alors, vous décrivez très bien dans votre livre ce processus, ainsi que le coucher, qui est tout aussi important. Il y a un autre point que vous décrivez qui montre aussi, là encore, toute l'importance des valets. C'est la mort du roi, la mort de Louis XIII et celle de Louis XIV. C'est ce que je vous propose de voir, Mathieu Davignat, après une troisième pause.
Canal Académie.
Vous écoutez Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Un jour dans l'histoire reçoit Mathieu Davignat, auteur du livre Les valets de chambre de Louis XIV, paru aux éditions Perrin. Alors nous évoquions le lever du roi. Alors il y a malgré tout une pudeur. Hein. On évoquait la chaise percée. On se rend compte qu'il y a beaucoup de monde dans la chambre. Mais malgré tout, oui, il y a cette pudeur que Louis XIV peut préserver.
Oui, alors on imagine, on se dit, mais comment pouvait-il se faire habiller devant tout le monde comme ça? Mais il y avait deux valets de chambre qui tenaient pudiquement un drap lorsqu'on l'habillait réellement. Donc il y a quand même une certaine pudeur, même si elle semble complètement infime par rapport à tous ces gens qui viennent voir le roi se lever. Mais il y avait une certaine pudeur, oui.
Alors, il y a une autre idée reçue à laquelle on va tordre le cou définitivement, si vous le voulez bien, Mathieu Davignat, c'est la toilette du roi. Il existe bien une toilette et il existe bien des bains pour se laver.
Oui, alors il a des bains. Alors, il est vrai que Louis XIV n'a pas pris énormément de bains dans sa vie, mais il avait un appartement des bains aussi bien à Fontainebleau, à Saint-Germain. Il en a fait construire un magnifique à Versailles pour abriter d'abord ses amours avec Madame de Montespan, qui effectivement sont des bains de plaisance, mais ce sont des bains tout de même. Il fréquentait également les bains de Quentin de la Vienne, son barbier, qui par la suite est devenu premier valet de chambre, et il était frotté tous les matins à l'alcool. Alors c'est évidemment pas une hygiène telle qu'on l'imagine aujourd'hui, mais il était beaucoup plus propre que ses contemporains, même si il a pris très très peu de bains au sens strict du terme, mais il fréquentait les bains ne serait-ce que de plaisance, à la fois à Paris dans sa jeunesse et puis après dans ses différents appartements de bains à Fontainebleau, à Saint-Germain et à Versailles.
Alors revenons-en, si vous le voulez bien, Mathieu Davigna, au Valais. Il y a un moment dans la vie du roi qui est très important, c'est sa mort, et le Valais est plus que jamais présent. Et c'est là où on voit toute l'importance du personnage. Vous avez des pages, j'allais dire, quasiment émouvantes, décrivant la mort de Louis XIII et ensuite celle de Louis XIV.
Oui, parce que là, on prend conscience que le roi est une personne mortelle, parce qu'il y a une théorie dite du double corps qui a très bien développé l'historien allemand Ernst Kantorowicz, où d'un seul coup, le roi redevient un simple mortel et les valets de chambre sont systématiquement présents, du moins jusqu'au bout, et accompagnent le roi. On pourrait dire des auxiliaires de vie, ce qu'on appelle aujourd'hui des auxiliaires de vie. Il accompagne le roi dans la mort, et il y a notamment Marie Dubois qui a fait, Marie Dubois, contrairement à ce qu'on pourrait penser à son nom, était un homme, un valet de chambre ordinaire du roi.
Un homme très pieux.
Un homme très très pieux, qui a créé une confrérie du rosaire dans sa paroisse en Vendômois, et qui a laissé un récit assez circonstancié de la mort de Louis XIII, où on voit que les grands seigneurs désertent, du moins les grands seigneurs et les grandes charges désertent la chambre du roi parce que le roi ne veut plus les voir et préfère être entouré, ce sera pareil sous Louis XIV, du moins à la mort de Louis XIV en 1715. C'est là où on voit qu'ils ont un véritable service. Et les gens qui ont les plus grands seigneurs, qui ont les charges honorifiques, n'ont plus lieu d'être là. Et le roi se confie complètement à eux et s'abandonne à leurs bons soins. Il y a des phrases assez étonnantes où on voit Marie Dubois dire, lors de la mort de Louis XIII en 1643, « J'eus l'honneur de tenir, de redresser le roi sur son coussin, j'eus l'honneur de lui tenir la tête et de le voir vomir, ce qui pour nous... Mais tout ça participe vraiment à un moment privilégié que le roi entretient avec ses plus proches domestiques, qui sont, de facto, les valets de chambre prennent une importance considérable. Et notamment Louis XIII qui demande que Pierre de Nières, qui était un de ses premiers valets de garde-robe, qui par la suite deviendra un premier valet de chambre de Louis XIV, de venir lui jouer du luth, parce que c'est un très très bon musicien. Et puis... tous les premiers valets de chambre qui se relaient à la mort de Louis XIV, qui sont fatigués, mais qui, donc c'était Marquis de Chancenay, le fils de François Quentin de la Vienne, qui était quartier. Mais on voit tous les valets de chambre se relayer parce qu'ils sont fatigués, et être présents au moment de la mort du roi. Et il y a une démesure dans l'expression des récits où vraiment ça devient un véritable topos, qui est sincère ou non, mais c'est vraiment comme on est sous un régime de monisme sacré, c'est-à-dire que le roi représente, du moins aux yeux des sujets, est un lieutenant de Dieu sur terre. C'est un peu la mort d'un... C'est la mort de Dieu, mais entre guillemets, c'est pas la mort de Dieu, évidemment. Mais c'est un moment très, très, très émouvant. Et c'est beaucoup plus intéressant de le voir par les écrits des valets de chambre, ou au moins voir leur action, que une description de Saint-Simon qui, justement, ne pointe pas tout cet aspect matériel et quotidien du roi. Il y avait les Arnauds qui étaient des simples porte-arquebusiers qui ont fait un récit extraordinaire de la mort de Louis XIV. On voit qu'ils sont vraiment très très touchés.
N'est-ce pas la prolongation au fond de cette intimité qui existe tout au long du service du roi ?
Complètement, du moins. C'est une continuité, parce que moi j'ai parlé du rôle des valets de chambre, où j'ai vu la vie d'un valet de chambre, il y avait une naissance qui était son arrivée à la chambre, il y avait une existence qui était sa vie auprès du roi, et puis une mort qui était soit la séparation, soit la mort du roi, soit la mort d'un de ses valets de chambre. Parce que le roi est très touché par la mort de ses proches domestiques, il le signale vraiment auprès de ses courtisans à la mort de Montand, à la mort de certains de ses principaux valets de chambre. Et ils ont une vie parallèle où ils ont chacun, ils sont très liés, c'est-à-dire que le valet de chambre est lié complètement à la vie du roi.
Vous en faites parfois même un espion du roi. Nous avons parlé tout à l'heure de l'entremetteur, de l'homme qui fait accélérer les procédures, mais c'est aussi un espion et il y a beaucoup de choses que le roi peut savoir grâce à ses valets.
Oui, Louis XIV avait une hantise, c'est d'être informé de tout. Alors, il en faisait des différents rapports par vraiment par la prévôté de l'hôtel, qui était la police interne de la cour, par le lieutenant général de police qui est créé en 1667 avec Gabriel Nicolas de la Reynie. Mais plus qu'une police c'est une police, moi, ce que j'ai appelé une police des disgrâces. C'est-à-dire que le premier valet de chambre, Bontemps puis Bloin, était également intendant du château de Versailles. Et ils avaient sous leurs ordres un certain nombre de Suisses, de gardes suisses, ou des garçons bleus également, qui erraient de ci, de là, et qui épiaient l'air de rien, et même en ville, et qui rapportaient, qui faisaient leurs rapports. Et alors, quand c'était pas très important, le roi s'en souciait guère. Mais on a vu notamment Lauzun fanfaronner à tue-tête à François-Louis Denière, plutôt son fils, qu'il allait être proclamé dans une très très grande charge. Et il a le malheur de le dire à un premier valet de chambre qui, l'air de rien, joue complètement la comédie, qui s'empresse d'aller le dire à Louvois. Alors que Louis XIV avait prescrit justement à Lauzun, qui à l'époque avait joué un peu le rôle de favori, de surtout ne pas révéler l'information avant qu'il soit nommé officiellement. Et Louvois, en prenant cela, va en parler immédiatement à Louis XIV. Et Louis XIV donc sévit immédiatement, non pas parce que c'était Louvois qui l'avait appris, etc., mais justement parce qu'il avait été piqué au vif qu'un de ses secrets ait été divulgué et qu'il avait expressément dit à Lauzun de ne pas révéler. Mais c'est surtout une police des disgrâces. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi d'un seul coup ils sont très mal vus. Et c'est peut-être dû à des rapports un peu secrets, oui.
Alors nous arrivons, Mathieu Davignien, au terme de cette émission. Il y a beaucoup d'autres aspects. J'invite vraiment nos auditeurs à lire votre livre « Les valets de chambre de Louis XIV » paru aux éditions Perrin. Vous montrez surtout dans votre livre que cette société d'Ancien Régime n'est pas la société sclérosée. Vous avez une expression neuve, j'allais dire. C'est une société compartimentée.
Oui, c'est-à-dire on a l'image de la société où les gens ne connaissent pas l'ascension sociale, ce qui sera un peu plus vrai au XVIIIe siècle où la société a tendance à se refermer sur elle-même, mais au XVIIe siècle il est encore très possible d'atteindre la cour. Le tout c'est de savoir rester à sa place. On atteint une place, on sait qu'un premier valet de chambre ne pourra jamais devenir un premier gentilhomme de la chambre, mais par un talent particulier, je reviens régulièrement à lui, mais François Quentin de la Vienne, qui est un barbier complètement obscur, qui reprend un établissement célèbre de bains à Paris, où le roi est venu très régulièrement dans sa jeunesse. D'abord, il achète plusieurs charges de barbier du roi, c'est-à-dire qu'il en achète suffisamment pour être en permanence auprès du roi toute l'année. Et puis, grâce à l'appui de Madame de Montespan, parce qu'il était originaire de la même région, puis que Madame de Montespan devait fréquenter, du moins lorsque Louis XIV fréquentait ses bains, il lui fournissait apparemment, selon les dires de Saint-Simon, quelques produits de parfum et des choses. Et par la suite, il devient premier valet de chambre du roi et marquis. Il devient marquis avec un superbe château. Et donc il y a une évolution vraiment qui est complètement possible. Même les Lebel, qui connaissent une première ascension sous Louis XIV, on les voit apparaître comme concierges du château de Versailles, donc dans les années 1660 où Versailles n'est encore pas grand-chose. Puis valet de chambre ordinaire. Et puis sous Louis XV, on sait que Lebel est le principal, le premier valet de chambre de Louis XIV, qui notamment ramenait toutes les filles au parc aux cerfs pour Louis XV.
Eh bien, Mathieu Davignien, je vous remercie. C'est sur cette idée qui montre que vraiment la société d'Ancien Régime n'était pas cette société sclérosée que nous allons nous quitter. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du livre « Les valets de chambre de Louis XIV » paru aux éditions Perrin. Merci à vous.
Je vous remercie.
Et à bientôt.
Merci.
Au revoir.